VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du lundi 2 mars. À la une ce soir.
Les islamistes de Boko Haram ont pris d'assaut dimanche soir une île située dans les eaux nigériennes du lac Tchad.
Niger, l'échéance électorale de 2016 divise la classe politique.
Nous, partis politiques membres de l'ARDR, réaffirmons solennellement que la Cour constitutionnelle actuelle du Niger n'est ni indépendante ni impartiale.
Reportage à suivre de notre correspondant à Niamey.
Au Burundi, un ancien proche devenu opposant du président de Nkurunziza s'évade. Hussein Rajabu était détenu dans la prison de Mpiamba à Bujumbura.
La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria s'engagent à mettre fin à Ebola avant la fin du mois de mars.
À Washington, Benjamin Netanyahou réaffirme une alliance solide entre Israël et les États-Unis à la veille d'un discours controversé sur l'Iran demain au Congrès.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Les islamistes de Boko Haram ont pris d'assaut dimanche soir une île située dans les eaux nigériennes du lac Tchad. La nouvelle a été donnée par un député et des humanitaires. Une radio privée nigérienne a fait état de 2 morts et de l'incendie du village se trouvant sur cette île. Mais un rescapé de l'assaut, interrogé par l'AFP, redoute de plus lourdes pertes humaines. L'assaut a été mené hier vers 19h heure locale, a raconté le rescapé, qui impute l'attaque à Boko Haram. 2 sources humanitaires, selon l'AFP, ont confirmé l'assaut, mais n'ont pu donner davantage de précisions.
Au Burundi, évasion de l'ancien président du parti au pouvoir, Hussein Rajabu, de la prison de Mpimba à Bujumbura. Un mauvais coup pour le président Pierre Nkurunziza. Malgré son emprisonnement, son ex-compagnon de route est resté populaire auprès d'une partie des militants du CNDD-FDD. Les explications avec Saloua Jafari.
L'ancien numéro 1 du parti au pouvoir au Burundi est en cavale depuis hier soir, écourtant ainsi une peine de 13 ans pour complot contre la sûreté de l'État. Selon la police, Hussein Rajabu avait 3 complices, 3 gardiens de prison, dont le brigadier chef de corps. La nouvelle de l'évasion vient perturber la campagne électorale du président Nkurunziza, lui qui était disciple de Rajabu avant qu'il prenne les rênes du parti CNDD-FDD, avant qu'il commence à lui faire de l'ombre. En réclusion, le prisonnier était resté populaire auprès de plusieurs militants du parti. À 4 mois des présidentielles, cette évasion n'aurait pas pu tomber plus mal pour le camp de l'actuel président.
Et nous restons au Burundi, où s'est rendu aujourd'hui un magistrat français pour enquêter sur le meurtre en 2007 d'une volontaire d'Action contre la faim. C'est ce qu'indique cette ONG. Agnès Dury, psychologue de 31 ans, avait été tuée en décembre 2007 lorsque la voiture dans laquelle elle circulait a été la cible de tir dans la ville de Ruyigi, dans l'est du pays.
République démocratique du Congo, Kizima Lénine Sabin, un ancien chef de FDLR, a été condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité. C'est ce qu'annonce l'association Avocats sans frontières que cite l'AFP. Le rebelle Hutu rwandais, actif dans la province du Sud Kivu, a été reconnu coupable de meurtre, de viol, de torture, de pillage, d'incendie et d'extorsion entre 2009 et 2012 dans le territoire de Shabunda.
La justice zambienne abandonne les poursuites contre le procureur général pour corruption, mesure prise conformément à la demande du procureur Mutembo Nchito en personne, directeur du ministère public, qui avait déjà refusé de se poursuivre lui-même le mois dernier.
Pour la première fois depuis 2011, le prix Mo Ibrahim, le plus richement doté au monde, a été décerné. Il n'avait pas trouvé de lauréat pendant 2 ans. Le point avec Camille Grosdidier.
Le président namibien sortant Hifikepunye Pohamba a vu lundi son œuvre saluée par le prix Mo Ibrahim 2014 de la bonne gouvernance en Afrique. Un prix qui récompense son leadership, la Namibie ayant connu la stabilité politique depuis son élection en 2005, qui avait été suivie d'un second mandat en 2009. Le comité a été marqué par la détermination du président Pohamba à conforter en priorité la cohésion et la réconciliation nationale, au moment où la Namibie abordait une phase décisive pour la consolidation de la démocratie et du développement social et économique, a déclaré Salim Ahmed Salim, président du comité d'attribution du prix qui est cité par l'agence France Presse. Le lauréat, qui a été annoncé à Nairobi au Kenya, se voit attribuer 5 millions de dollars sur 10 ans, puis 200 000 dollars par an après cela. Conformément à la Constitution, M. Poamba ne pouvait pas briguer de troisième mandat et son successeur, l'ex-premier ministre Hage Geingob, assumera ses fonctions d'ici à la fin du mois.
L'African News Agency a sorti sa première dépêche hier, la nouvelle agence de presse panafricaine est pour l'heure basée en Afrique du Sud, mais prévoit de s'étendre dans 15 pays d'Afrique d'ici juillet.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, une offensive d'envergure contre l'État islamique. Quelque 30 000 membres des forces pro-gouvernementales irakiennes mènent l'attaque pour reprendre Tikrit au nord de Bagdad, rappelant que la ville est un bastion du groupe terroriste. Michel Joseph.
C'est sans doute l'opération la plus audacieuse entreprise par Bagdad contre Daesh, annoncée la veille par le premier ministre irakien. Lancée très tôt ce matin, l'armée, soutenue par des milliers de combattants de la milice chiite, s'est lancée à l'assaut de Tikrit, avançant depuis trois directions. Les forces aériennes ont-elles d'ores et déjà commencé à bombarder la ville. Selon un colonel de l'armée contacté par l'AFP, les forces pro-gouvernementales évoluent également sur les routes secondaires afin d'empêcher la fuite des djihadistes qui contrôlent la ville de Tikrit depuis 9 mois. L'EI s'était emparé de l'ancienne ville natale de Saddam Hussein en juin dernier suite à une percée fulgurante dans le nord et l'ouest du pays. À la veille de l'offensive, le premier ministre Haider al-Abadi s'était adressé aux combattants sunnis pour leur demander de se retourner contre les djihadistes. Il leur a offert une dernière chance, leur promettant le pardon.
Rencontre entre John Kerry et Sergueï Lavrov ce lundi à Genève. Le secrétaire d'État américain s'est déclaré plein d'espoir que ces discussions avec le chef de la diplomatie russe déboucheront, sur un changement en Ukraine. On fait le point avec Nicolas Pineau.
À l'issue d'un entretien de 80 minutes avec son homologue russe, le chef de la diplomatie américaine a dit espérer que suite à cette rencontre, cela sera la route pour plus de désescalade et non pour plus de déception, selon M. Kerry. Cette rencontre intervient alors que sur le terrain, une certaine accalmie s'observe entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes. Si les violations du cessez-le-feu sont de moins en moins fréquentes, il est trop tôt pour savoir si nous sommes au bout de nos peines, a déclaré un responsable américain accompagnant M. Kerry. C'est dans ce contexte que les Nations Unies annoncent que la guerre dans l'est de l'Ukraine a déjà fait plus de 6000 morts depuis le début des violences, c'était en avril dernier. Le commissaire aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a annoncé des destructions impitoyables concernant les civils et les infrastructures.
Les nouvelles faisant état du déclin des relations israélo-américaines ne sont pas seulement prématurées, elles sont fausses. Notre alliance est plus solide que jamais, a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ce matin à la conférence annuelle du groupe pro-israélien EPAC à Washington. Mais le plus important discours de M. Netanyahou durant sa visite à la capitale américaine, il le prononcera demain devant les deux chambres du Congrès.
My speech is not intended to show any disrespect to President Obama or the esteemed office that he holds.
Le leader israélien s'est montré diplomatique, affirmant d'entrée de jeu que son discours demain ne devrait pas être vu comme un affront au président Barack Obama. Les deux hommes privilégient des approches différentes quant à la façon d'empêcher l'acquisition par l'Iran de l'arme nucléaire. Netanyahou a récemment déclaré qu'il fera tout pour empêcher la conclusion d'un accord avec Téhéran, actuellement en discussion avec les puissances mondiales. Aucune rencontre n'est prévue entre le président Obama et le premier ministre Netanyahou.
Élections législatives au Tadjikistan. Le parti au pouvoir rafle 63% des sièges, tandis que trois partis alliés remportent les 37% restants. Comme le souligne l'AFP, le principal parti d'opposition et des observateurs européens sur place ont fait état de fraudes massives. Des irrégularités ont été signalées tant au niveau du vote que du dépouillement. Le président tadjik, Emomali Rahmon, est au pouvoir depuis 22 ans.
Suite du procès de Johar Sarnaev, auteur présumé de l'attentat contre le marathon de Boston en 2013, le juge George O'Toole a entendu ce lundi les requêtes des deux parties pour la suppression de certaines preuves. La sélection du jury est prévue demain. 12 jurés et 6 remplaçants seront choisis parmi 70 candidats issus d'un groupe de 1350 personnes. L'attentat du 15 avril 2013 avait fait 3 morts et 264 blessés. Voilà pour le journal. Le Monde aujourd'hui, coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco avec Nathalie Barge.
Les opérateurs téléphoniques sont réunis à Barcelone jusqu'au 5 mars au Congrès mondial de la téléphonie mobile pour développer leur marché de plus en plus compétitif. Les fabricants tentent de séduire les clients des pays émergents en lançant de nombreuses campagnes commerciales. Les achats de smartphones ont augmenté de 23% en 2014 dans le monde, indique l'Institut GFK cité par l'AFP. Les autorités gambiennes ont annoncé ce lundi l'interdiction totale et immédiate des jeux d'argent, indique l'agence de presse africaine. Les loteries et casinos doivent donc cesser toute activité. Beaucoup de personnes, dont des enfants, se livrent à ces pratiques susceptibles de ruiner des familles, précise le communiqué. La réaction de Mustapha Ly, professeur au département arabe à l'université Cheikh Anta Diop, à Dakar, au Sénégal.
Quand l'islam interdit les jeux d'hasard, c'est par rapport à sa conception de la création de richesses. Que l'argent en soi ne doit pas créer de la richesse. On trouve des gens qui amassent de l'argent alors qu'en contrepartie, il n'y a pas un travail rendu pour la société.
La compagnie d'électricité sud-africaine Eskom a annoncé que la centrale de Medupi a produit ce lundi ses premiers kilowatt-heure, indique l'AFP, ajoutant que la production à plein régime devra attendre au moins 2 ans malgré les besoins pressants. À plein régime, elle devrait fournir 4800 mégawatts, ajoutant 10% à la capacité de production électrique nationale.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie Barge.
Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Retour des jeunes champions maliens ce lundi à Bamako.
La CAN des cadets s'est achevée hier au Niger par la victoire en finale des Aiglons maliens 2-0 contre l'Afrique du Sud. Bagayoko et Salé donnent la victoire au Mali qui ira aussi à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. C'est prévu plus tard cette année au Chili.
Ligue africaine des champions connaît le tableau des 16e de finale.
Le premier tour retour s'est disputé ce week-end à travers l'Afrique. Seule véritable grosse surprise, l'élimination du CEU Sport San Pedro par l'AS Kaloum. Pour le reste, on révèle les très bons résultats des clubs nigérians et sud-africains qui auront 2 représentants au tour suivant, comme le Cameroun, la Tunisie et la RDC. Sanga Balende ayant réussi la performance de se qualifier sur sa pelouse, malgré une défaite par 2 buts d'écart à l'aller sur le terrain du Recreativo de Libolo. Enfin, l'Algérie a réussi à qualifier ses 2 représentants qui viennent donc rejoindre Sétif, tenante du trophée et exempte de ce premier tour.
La Coupe de la Confédération, mauvaise pioche pour les clubs camerounais.
Élimination au premier tour, retour de l'Unisport Onkam battu 3-1 sur la pelouse de l'Olympique Ngor. Ça casse aussi pour les Panthères de Ndé, battu 1-0 au Rwanda par le Rayon Sport. Qualification en revanche pour le prochain tour du 11 créateur à Bamako, victoire 1-0 face à la Renaissance sportive de Berkane. On écoute Djibril Dramé.
Ce n'est que la joie et la fierté, parce que l'objectif c'était la qualification, mais il faut reconnaître que ça a été dur, très dur, sinon laborieux. Mais il fallait s'y attendre, parce qu'on est tombé sur une équipe qui a carrément refusé de jouer, qui est partie se camper dans sa propre surface de réparation. Donc on a compris qu'en essayant d'aller à la vitesse supérieure, en essayant de se surpasser, en faisant des passes, une idée qu'on allait débloquer la situation. On a vu que l'adversaire qui était en face était très bien en place, très concentré, et ça nous a rendu la tâche difficile. C'est vers les 10-15 dernières minutes, quand j'ai compris que ces scénarios-là, si on continue comme ça, ça va être très très compliqué. J'étais obligé maintenant de faire monter encore d'autres attaquants, histoire quand même d'avoir ce fameux but qu'on attendait. Donc on a fait sortir un arrière central pour un attaquant, un milieu du terrain pour un attaquant. Donc il y a eu beaucoup d'attaquants dans le jeu et c'est ce qui a été la clé du match. Donc je ne peux que me féliciter et féliciter le public malien.
Djibril Dramé au micro de Siaka Traoré à Bamako.
Tennis, nouveau classement ATP.
L'Espagnol Rafael Nadal, vainqueur la veille du tournoi de Buenos Aires, retrouve le podium. Le Serbe Novak Djokovic, battu en finale à Dubaï samedi par Roger Federer, conserve sa place de numéro 1 mondial devant le Suisse.
L'NBA, championnat de basket nord-américain.
Le palpitant duel entre James Harden et LeBron James a tourné dimanche à l'avantage du meneur de jeu barbu des Houston Rockets qui sont venus à bout de Cleveland, 105 à 103 en prolongation. Le match entre Chicago et les Clippers de Los Angeles a également produit des étincelles à l'avantage de la franchise californienne, 96-86. Et puis Golden State, meilleure équipe de la NBA, a souffert à Boston mais s'impose 106 à 101 grâce notamment à 39 points de Stephen Curry.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcel et Morgane Guerriac en votre compagnie, place au dossier du jour, première escale, le Niger.
Alors qu'ils affirment une certaine unanimité dans le cadre de la lutte contre la secte Boko Haram, les acteurs politiques nigériens sont à couteau tiré, notamment dans la perspective des élections générales de 2016. L'opposition politique a affirmé qu'elle n'ira pas aux élections avec la composition actuelle de la Cour constitutionnelle qui est le juge électoral. Les précisions de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Partialité dans certaines de ses décisions, accointance de la majorité de ses membres avec le régime en place, telles sont entre autres griefs que l'opposition politique porte à la Cour constitutionnelle du Niger. Et ce sont ces griefs qu'elle a compilés dans un document intitulé « Livre blanc sur les institutions de la République » cas de la Cour constitutionnelle pour servir d'élément de récusation de cette Cour pour être juge électoral en début d'année prochaine. La publication du livre a valu à quelques leaders de l'opposition une brève interpellation à la police judiciaire. Parmi ceux-ci, Seni Omorou, le chef de file de l'opposition.
Ces interpellations constituent une déclaration de guerre à l'ARDR par le Boko Haram de la démocratie nigérienne, à savoir Issoufou Mohamed. L'opposition politique assume l'entière responsabilité du contenu du livre blanc. C'est pourquoi nous, partis politiques membres de l'ARDR, réaffirmons solennellement que la Cour constitutionnelle actuelle du Niger n'est ni indépendante ni impartiale, l'ARDR réaffirme fermement la récusation de la Cour constitutionnelle actuelle du Niger comme juge constitutionnel et électoral.
En réaction à cette sortie médiatique et à la publication de ce document, les partis de la majorité estiment que l'opposition est en désarroi. PhD Mamoudou Djibo, membre de la mouvance au pouvoir.
L'opposition politique s'évertue à décrédibiliser les institutions de la République par la diffusion d'un tract outrageusement appelé « Livre blanc », particulièrement injurieux et injuste vis-à-vis de la Cour constitutionnelle. Ce pamphlet contre des personnes et leurs familles est totalement en décalage avec nos traditions de respect et de vivre ensemble, tant apprécié et reconnu au niveau mondial. Au Niger, l'organisation matérielle des élections et la proclamation des résultats provisoires incombent à une commission électorale nationale indépendante du pouvoir politique. La Cour constitutionnelle contrôle la régularité, la transparence et la sincérité des élections et référendums et en proclame les résultats définitifs. Où se situe donc l'inquiétude de l'opposition? En ce moment particulièrement grave pour notre pays, la mouvance présidentielle lance un appel solennel à la raison, à l'apaisement et à l'unité nationale.
En rappel, les élections générales sont prévues au Niger pour le premier trimestre de l'année prochaine. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Côte d'Ivoire, une station d'eau pour contribuer au renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan a été mise en service ce lundi. Elle a coûté 80 milliards de francs CFA et produira 80 000 mètres cubes d'eau par jour. Reportage, Germaine Dri, notre correspondant à Abidjan.
C'est de Bonoua, ville située à environ 40 km d'Abidjan, que cette station permettra aux quartiers de Koumassi, Yopougon et Abobo, tous du district d'Abidjan, de bénéficier de l'eau potable et en même temps mettre fin aux pratiques pénibles énumérées par le maire de Koumassi au nom des populations des trois localités précitées. De Irémon.
Le bidon de 20 litres d'eau livré par des charretiers coûte entre 100 francs et 250 francs selon que vous vous situez au rez-de-chaussée ou au quatrième étage du même immeuble. Et que dire des jeunes filles qui se font agresser parce qu'obligées de se lever à 2h 6h du matin pour aller faire le rang devant une bonne fontaine en quête d'une hypothétique goutte d'eau. Si on ajoute à tout cela les maladies diarrhéiques constatées dans les zones où l'eau potable fait défaut, vous aurez compris, mesdames et messieurs, toute l'importance de la cérémonie de ce jour. L'occasion est donc belle.
Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, satisfait d'avoir remporté une partie de son combat, retrace les performances de ce projet.
Remporter la bataille de l'eau, c'était apporter à cette population le bien le plus précieux, la vie. C'est ce que depuis 3 ans, chaque jour, nous nous sommes évertués de mener. Remporter enfin la bataille de l'eau à Abidjan, puis dans le reste du pays, c'était remporter la première victoire pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Ce projet consiste en la réalisation, l'équipement, le raccordement de 18 forages de 250 mètres cubes heure chacun sur 2 champs captants de la nappe sud Komoé. La réalisation d'équipements de 2 unités de traitement et de 2 postes de reprise, la fourniture et la pose de canalisation de refoulement vers Abidjan sur une distance de plus de 100 km pour fournir 80 000 mètres cubes supplémentaires par jour d'eau à la zone sud, mais à Abidjan.
Les sources du manque d'eau à Abidjan et à l'intérieur du pays sont multiples. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara décide d'y mettre un terme.
Le secteur de l'eau potable a été sinistré au cours de la décennie de crise sociopolitique que notre pays a traversée. Le manque d'entretien et d'investissement a entraîné de graves déficits d'approvisionnement allant de la baisse de pression à certains endroits à une pénurie totale ailleurs. À Abidjan, avec l'accroissement du taux d'urbanisation, les difficultés du secteur de l'eau s'étaient amplifiées d'année en année. Le programme triennal qui a déjà démarré permettra de combler progressivement les déficits dans toutes les régions du pays. Car voyant des femmes et des filles aller puiser l'eau dans les marigots, cela ne doit plus se faire en Côte d'Ivoire.
Jean Mendry, Abidjan, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Lutte contre l'Ebola, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria s'engagent à mettre fin à l'épidémie avant la fin du mois de mars. Mais la Guinée reste confrontée aux réticences des habitants de certaines localités non loin de Conakry, la capitale.
C'est un nouveau défi que se lancent les autorités sanitaires guinéennes. Il concerne aussi la Sierra Leone et le Libéria, deux pays dont les chefs d'État ont décidé il y a quelques jours à Conakry de mettre fin à Ebola avant fin mars. Ce défi vient allonger celui annoncé par la Coordination nationale de lutte contre Ebola. Mais à quelques jours de l'objectif zéro Ebola en 60 jours, une vingtaine de cas confirmés sont traités dans les différents centres du pays. Malgré ce bilan, le ministre guinéen de la Communication reste optimiste. Alhoussine Makanira Kake.
Les localités censées être réticentes, ce sont ces populations qui appellent le personnel soignant, le personnel humanitaire, dès qu'ils voient que quelqu'un est malade.
Les services sanitaires du pays affirment maîtriser l'épidémie, mais les réticences dans les nouveaux foyers proches de Conakry constituent de nouveaux défis. Fodeta Cecilia est responsable du service communication de la Coordination nationale de lutte contre Ebola.
Nous, aujourd'hui, notre ennemi, ce n'est pas l'épidémie d'Ebola. C'est l'épidémie de la réticence, de la négation, du déni, l'épidémie de la révolte, je peux dire même de la rébellion, de certaines populations sachant parfaitement c'est quoi Ebola, connaissant bien la dangerosité du virus, sachant très bien la rapidité de contamination, les populations sachant tout ça refuse catégoriquement et s'attaque à nos équipes de prise en charge ou de sensibilisation.
La fièvre hémorragique à virus Ebola a tué plus de 1500 personnes en Guinée. Conakry, Zakaria Kamara, pour La Voix de l'Amérique.
Lutte contre le virus Ebola. VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple, ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1-202-257-35-83. Je répète, 1-202-257-35-83. Vous recevrez des infos et des conseils de prévention contre le virus. Restez informés, VOA Afrique.
L'armée camerounaise a tué plusieurs braconniers soupçonnés d'avoir abattu une vingtaine d'éléphants dans le parc national de Boubadjida dans le nord du pays la semaine dernière. Depuis leur arrivée dans la zone, les suspects, qui seraient des miliciens janjaouides soudanais, ont affronté à plusieurs reprises les forces de sécurité. Un reportage de notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka, présenté par Lionel Gaïma.
S'exprimant à l'issue d'une visite dans le parc national de Boubadjida, Jean-Jacques Lebois, du département anti-braconnage de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, le CEMAC, a fait état de l'utilisation d'armes sophistiquées par les braconniers. Certaines, d'après lui, proviendraient de la guerre en Libye. Les miliciens janjaouides utilisent des revenus de la vente d'ivoire pour financer leurs activités, a expliqué Jean-Jacques Lebois. Le trafic de la faune sauvage est considéré comme la troisième ou quatrième plus importante activité criminelle au monde après le trafic d'êtres humains, d'armes et de drogues. Il rapporterait de 8 à 10 milliards de dollars par an. Lorsque vous avez tant d'argent en jeu, combiné aux activités illégales, vous avez la corruption, avec une longue chaîne aboutissant en Asie de l'Est, en passant par l'Afrique centrale. Le chercheur Thomas Ewing travaille pour C4 Ads, une organisation basée ici à Washington et qui aide les pays africains à lutter contre les réseaux de trafic d'ivoire. Il estime que quelques groupes armés d'Afrique centrale recourent au braconnage et à d'autres crimes du genre. Je ne peux pas vous dire combien un groupe terroriste peut gagner dans le trafic d'ivoire ou quels sont les différents groupes impliqués dans ce trafic, mais je peux vous dire qu'un important nombre d'acteurs déstabilisateurs semblent impliqués dans ce trafic dans différents pays africains. Les organisations internationales de défense de la nature accusent les groupes rebelles d'avoir massacré presque 12 000 éléphants en Afrique centrale depuis 2004. Elles mettent en cause les responsables gouvernementaux corrompus qui aident ces groupes à vendre l'ivoire et financer leurs insurrections. Le gouvernement camerounais a déployé l'armée pour protéger ses parcs nationaux du nord du pays, où presque 2 000 éléphants ont été abattus par les braconniers entre 2012 et 2013.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Les islamistes de Boko Haram ont pris d'assaut hier soir une île située dans les eaux nigériennes du lac Tchad. La nouvelle a été donnée par un député et des humanitaires. Une radio privée nigérienne a fait état de 2 morts et de l'incendie du village se trouvant sur cette île.
Au Burundi, évasion de l'ancien président du parti au pouvoir, Hussein Rajabu, de la prison de Mpimba à Bujumbura. Un mauvais coup certainement pour le président Pierre Nkurunziza.
Et au Burundi, toujours, un magistrat français s'est rendu sur place pour enquêter sur le meurtre en 2007 d'une volontaire d'action contre la faim.
République démocratique du Congo, Kizima Lénine Sabin, un ancien chef des FDLR, a été condamné à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité. C'est ce qu'annonce l'association Avocats sans frontières, citée par l'AFP.
Et pour la première fois depuis 2011, le prix Mo Ibrahim, le plus richement doté au monde, a été décerné.
La justice zambienne abandonne les poursuites contre le procureur général pour corruption.
Et l'African News Agency a sorti sa première dépêche hier.
En Irak, offensive d'envergure contre l'État islamique, quelques 30 000 membres des forces pro-gouvernementales irakiennes mènent l'attaque pour reprendre Tikrit au nord de Bagdad.
Rencontre entre John Kerry et Sergueï Lavrov ce lundi à Genève. Le secrétaire d'État américain s'est déclaré plein d'espoir que ces discussions avec le chef de la diplomatie russe déboucheront sur un changement en Ukraine.
À Washington, Benjamin Netanyahou réaffirme une alliance solide entre Israël et les États-Unis à la veille d'un discours controversé devant les deux chambres du Congrès. 6 degrés centigrades ici à Washington, 28 degrés à Dakar, au Sénégal, où nous saluons nos amis de cette nouvelle station 102 FM, notre fréquence dans la capitale sénégalaise.
Voilà la mise en onde ce soir. Lionel Gaïma, Morgane Diriek et Chérubin Dorsil à la présentation.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Sabari FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Milo FM, 99.5, Cancan, Niger. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.